Chapitre 5. Beaucoup de rumeurs coururent pendant les deux mois suivants. Les gens disaient qu'on voyait de plus en plus Derby dans sa nouvelle humeur active et qu'Asénath n'était presque jamais là pour ses rares visiteurs. Je ne reçus qu'une visite d'Edward, venu en coup de vent avec la voiture d'Asénath, dûment récupérée là où il l'avait laissée dans le Maine, chercher des livres qu'il m'avait prêtés. Il était dans ses récentes dispositions et ne resta que le temps de quelques vagues politesses. Il n'avait alors manifestement rien à discuter avec moi, et je remarquai qu'il ne prit même pas la peine en sonnant d'utiliser le vieux code, 3 coups puis 2. De cette soirée en voiture, il me restait une vague mais très intense horreur que je ne pouvais expliquer, si bien que son prompt départ fut un véritable soulagement. À la mi-septembre, Derby s'absenta une semaine, et certains étudiants du groupe avancé firent allusion d'un air entendu à une rencontre avec un célèbre chef de culte, récemment expulsé d'Angleterre, qui avait établi son quartier général à New York. Pour ma part, je ne pouvais chasser de mon esprit cette étrange randonnée du Maine. La métamorphose dont j'avais été le témoin m'avait profondément impressionné, et je me surprenais sans cesse à y chercher une explication, ainsi qu'à l'horreur extrême qu'elle m'avait inspirée. Mais le plus surprenant, c'était les bruits de sanglots que, paraît-il, on entendait dans la vieille maison Crumbnshield. La voix semblait féminine, et certains des plus jeunes croyaient reconnaître celle d'Asénath. Elle se faisait rarement entendre et donnait parfois l'impression d'être étouffée de force. On parla d'une enquête qui fut abandonnée quand Asénath se montra dans les rues et bavarda d'un ton alerte avec quantité de ses relations, s'excusant de ses récentes absences et parlant incidemment de la dépression nerveuse et de l'hystérie d'une invitée de Boston. On n'avait jamais vu l'invité, mais la présence d'Asénath coupa court à tout. Puis quelqu'un compliqua les choses en murmurant qu'une fois ou deux les sanglots venaient d'une voix d'homme. Un soir de la mi-octobre, j'entendis la sonnerie familière, 3 coups puis 2, à la porte d'entrée. Ayant répondu moi-même, je trouvai Édouard sur le seuil et me rendis compte immédiatement que sa personnalité était l'ancienne, celle que je n'avais pas rencontrée depuis le jour de son délire pendant le terrible retour de Chesuncook. Son visage était animé d'émotions contradictoires, parmi lesquelles la crainte et le triomphe semblaient se partager l'empire, et il jeta un regard furtif par-dessus son épaule quand je refermai la porte derrière lui. Me suivant d'un pas indécis dans le bureau, il me demanda du whisky pour se calmer les nerfs. Je me gardai de le questionner, attendant qu'il fût disposé à aborder ce qu'il voulait dire. Il se décida enfin à s'expliquer d'une voix étouffée. « Asénath est parti, Dan. Nous avons eu hier soir une longue conversation en l'absence des domestiques et je lui ai fait promettre de ne plus s'attaquer à moi. » Naturellement, j'avais certaines défenses occultes dont je ne t'ai jamais parlé. Elle a été obligée de céder, mais elle était folle de rage. Elle a plié bagage direction New York, filé juste à temps pour attraper le train de Boston à 8h20. Je suppose que les gens vont bavarder, mais je n'y peux rien. Inutile de raconter qu'il y a eu dispute. Dis simplement qu'elle est partie pour un long voyage d'études. Elle va probablement s'installer avec un de ces horribles groupes de fanatiques. J'espère qu'elle ira au diable et que j'obtiendrai le divorce. En tout cas, je lui ai fait promettre de garder ses distances et de me laisser tranquille. C'était atroce, Dan. Elle